sujet, tiens, qui va vraiment intéresser les gens qui nous écoutent et qui sont touchés de près ou de loin par le cancer. On va parler de l'utilisation de la diète cétogène dans le traitement.
Oui, exact. Moi, je ne vous parlerai pas de santé, je vais vous parler de maladie. Mm. Donc, ce matin, je vais profiter de la chronique pour faire part d'une publication à laquelle j'ai participé, qui regroupe toute une brochette d'experts internationaux sur ce sujet intéressant, là, qui est la diète cétogène, non pas en remplacement des thérapies connues, mais je vous dirais comme adjuvant pour améliorer l'efficacité de ces thérapies-là. Le titre du papier, et j'ai envoyé le lien à vos recherchistes, là, on pourra le mettre sur le site, le Clinical Research Framework Proposal for Ketogenic Metabolic Therapy in Glioblastoma. Ça, ce sont les tumeurs cérébrales, mais il faut savoir que ce type d'approche-là peut être discuté pour à peu près tous les types de cancers. Commençons par le début. Commençons par définir nos termes. Alors, qu'est-ce qu'un cancer? Hein? Le cancer, c'est une classe de maladies hétérogène. Essentiellement, le cancer, ça va toucher des cellules et ça va amener un dérèglement dans le comportement cellulaire. Classiquement, moi, je dis aux patients, tout comme aux étudiants, le cancer, c'est une maladie génétique. Et ici, à ne pas confondre avec maladie génétiquement transmissible, mais bien une maladie des gènes. Donc, dans votre organisme, Pénélope, vous avez des gènes qui ont été utilisés au moment de l'embryogenèse, quand vous étiez un embryon qu'on appelle des proto-oncogènes, qui sont maintenant des gènes normalement dormants. Donc, ces gènes-là, ils ont été utilisés, ils ont fait leur travail, ils étaient très actifs au moment où les cellules devaient se répliquer rapidement, migrer, produire des vaisseaux sanguins nouveaux. Mais ces gènes-là, normalement, devraient être dormants dans votre organisme. Or, un cancer, ça va souvent demander une réactivation de certains de ces gènes-là. Ça, c'est le premier mécanisme. Puis le deuxième mécanisme, en parallèle à ça, c'est qu'on a aussi des gènes dans notre organisme qu'on appelle des gènes suppresseurs de cancer. Eux, ce sont un peu les policiers de notre organisme. Alors, quand une cellule fait un excès de vitesse, donc une cellule qui se dérègle, le gène suppresseur va prendre cette cellule-là et va l'envoyer vers la peine de mort. Donc, on va l'envoyer en mort cellulaire si on n'est pas capable de réparer la cellule, un processus qu'on appelle l'apoptose. Un cancer va émerger lorsque des proto-oncogènes sont réactivés de manière inappropriée et des gènes suppresseurs de cancer sont inactivés. Ça, je vous dirais que c'est une mécanique qui est relativement bien étudiée, bien comprise et bien acceptée. Sauf que ce n'est qu'un des 10 grands mécanismes qui touchent la cellule tumorale. J'ai envoyé un autre lien là, à vos recherchistes pour un article qui est vraiment un article important qui est paru dans Cell il y a une dizaine d'années. Donc, c'est
de Hallmark. On va le mettre en référence dans l'onglet de santé de l'émission d'aujourd'hui.
Et j'encourage les auditeurs à consulter cet article-là. C'est un article qui n'est pas si ardu que ça à lire. Donc, Hallmark of Cancers, the Next Generation. Et essentiellement, on discute des 10 mécanismes qui affectent la cellule cancéreuse.
Pardon, David, vous dites les 10 mécanismes, ouais. Donc ils sont vraiment clairement tous établis, c'est ça?
Oh, il y en a probablement d'autres qui vont se rajouter. Parce que voyez-vous, Hallmark of Cancer, the Next Generation, était la suite d'un article publié en 2010 où on identifiait 6 mécanismes. Okay. Et là, on est rendu à 10. Le progrès ne cesse. Hein? Et dans ces 10 mécanismes, ben, il y a évidemment le désordre métabolique, et c'est de ça dont je vais vous parler ce matin. Donc, le désordre métabolique qui touche les cellules cancéreuses. La question à savoir si le désordre métabolique vient avant l'instabilité génétique, c'est pas important, même si notre littérature pullule d'articles sur la question. En fait, qu'est-ce qui est l'œuf, qu'est-ce qui est la poule, c'est pas si important, mais il faut savoir que les deux mécanismes sont impliqués. Donc, pour parler de métabolisme, je vais devoir vous parler de la cellule, je vais devoir vous parler d'une organelle qu'on retrouve dans la cellule qu'on appelle la mitochondrie. Donc, la mitochondrie, c'est la centrale hydroélectrique de votre cellule. C'est l'endroit dans lequel va se faire la production d'énergie. Pour bien se comprendre, l'énergie, ça va être une molécule qu'on va appeler de l'ATP, hein, de l'adénosine triphosphate. Et le mécanisme habituel pour produire cette molécule-là, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs voies métaboliques, mais la plus classique, la plus importante, elle se produit au niveau de la mitochondrie et elle demande la présence d'oxygène. Donc, on appelle ça la phosphorylation oxydative qui va produire l'ATP ou le gaz, si vous voulez, de chacune de vos cellules. Bien, dernièrement, ce qu'on a découvert, c'est que, je dis dernièrement, mais la première personne qui a proposé ça, c'est un monsieur, c'est un docteur Warburg, là, en 1956. Donc, on le sait depuis un certain temps. Mais ce qui est devenu de plus en plus clair dernièrement, c'est que les mitochondries dans les cellules tumorales sont anormales. Alors, lorsqu'on les regarde au microscope, on voit que leur structure est difforme. Puis, on voit aussi que la biochimie au niveau de la mitochondrie est altérée. Et ce qu'on pense, c'est qu'il y a bon nombre de cellules cancéreuses qui sont incapables de faire de la phosphorylation oxydative, donc de produire de l'ATP via ce mécanisme-là qui est le plus important, je vous le rappelle. Pourquoi c'est le cas? Bien, parce que dans les cancers qui sont extrêmement agressifs, comme les cancers cérébraux, par exemple, qu'on appelle les glioblastomes, les tumeurs croient de manière très, très rapide, en accéléré. Et ce faisant, il y a à l'intérieur de la tumeur un phénomène qui s'appelle de l'hypoxie. Il y a un manque d'oxygène. Donc, si notre cellule a besoin d'oxygène pour produire son ATP, bien, elle va se retrouver mal prise. Alors, on pense qu'il s'agit d'un mécanisme évolutif adaptatif qui fait que les cellules tumorales ont développé des voies alternatives de métaboliser le glucose et de produire l'ATP. Et ces voies alternatives-là sont extrêmement inefficaces. Si le mécanisme de phosphorylation oxydative normale dans la mitochondrie produit 36 molécules d'ATP, ben la voie alternative qu'on appelle la glycolyse anaérobique n'en produit que 2 molécules. Donc, c'est pas mal inefficace et ça place nos cellules tumorales dans une situation de vulnérabilité, situation qu'on voudra exploiter en utilisant la fameuse diète cétogène.
David, quand vous expliquez tout ça, là, je pense aux auditeurs qui nous écoutent, si, ben, par exemple, si moi j'ai un début de cancer, tout ça, ça s'installe très en amont, si je comprends bien.
Oui, oui, si on pense que c'est un phénomène précoce. Et okay. Comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a des gens qui présument même que le défaut au sein des mitochondries serait un prélude à l'émergence d'un cancer. Moi, écoutez, moi je ne crois pas tant à cette hypothèse-là, mais... L'auteur principal du papier que je rapporte ce matin, là, un certain Thomas Seyfried, c'est un biologiste métabolique qui travaille à Boston College. Puis lui, c'est son hypothèse de travail. Donc lui, il dit qu'en amont de tout ce qui est émergence de cancer, débute une atteinte mitochondriale plutôt qu'une instabilité génétique. Je pense que ce n'est pas si important. Je pense que les deux mécanismes peuvent très bien aller de pair. Mais l'important, c'est qu'on cible les deux mécanismes. Puis là, la première chose que je veux dire, c'est que contrairement à ce qui est véhiculé à l'occasion, la diète cétogène ne doit pas être vue comme un remplacement aux thérapies standards. Pas du tout. C'est une thérapie supplémentaire qui va de un... puis ça, les études sont très claires là-dessus, améliorer l'efficacité de la chimiothérapie, mais aussi diminuer les effets secondaires de la chimio. En plus qu'on pense, puis pour des raisons que je vais vous expliquer un peu plus tard, prolonger la survie des patients. Donc, quand on parle de diète cétogène, écoutez, il y a 1 million de recettes qui sont publiées ci et là. Donc, il faut juste être prudent avec ça. Mais il faut comprendre que le but, c'est d'arrêter d'utiliser le glucose comme source d'énergie. C'est ça qu'on veut faire initialement. Donc, on veut remplacer les calories qu'on consomme par des graisses plutôt que par des glucides. Donc, le régime va fonctionner en épuisant le corps de ses réserves de glucose. Je dois dire d'entrée de jeu qu'une vraie diète cétogène, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire et que la compliance est très faible. C'est-à-dire que je vous dirais, pour 10 patients qui vont commencer une diète cétogène, il y en a 3 qui vont poursuivre au-delà de 2 mois. C'est extrêmement difficile et vous allez voir les raisons pour lesquelles c'est difficile, c'est très, très demandant. Mais l'idée, c'est de dire, on va décomposer des graisses pour créer notre énergie. Ça va entraîner la production d'une molécule qu'on va appeler des corps cétoniques. Et ce sont ces corps cétoniques-là qui vont devenir le carburant du corps. Mais pas tant le carburant des cellules tumorales, parce que les cellules tumorales vont avoir de la difficulté à utiliser les corps cétoniques pour produire de l'énergie. Et l'idée, c'est de dire qu'on veut appauvrir en énergie nos cellules tumorales, justement pour les rendre plus susceptibles aux différents traitements qu'on va déployer par la suite. Et là, une chose qui est vraiment, vraiment importante à mentionner, parce que dans ce type de thérapie-là, il n'y a rien qui est absolu. Et ça, on l'a marqué dans le papier, on a insisté là-dessus, il est important de mentionner que les changements alimentaires seuls sont peu susceptibles de contrôler la progression tumorale chez la plupart des patients. Donc, attention, c'est une approche alternative combinée au traitement systémique. L'autre chose qui est vraiment importante de mentionner, c'est que c'est bien beau de dire qu'on va s'attaquer via différentes approches au métabolisme du glucose. Mais il y a, on l'a mentionné, des voies alternatives qui peuvent produire de l'ATP. Puis une de ces voies-là, c'est ce qu'on appelle la glutamine. La glutamine, qui est un acide aminé polyvalent, qui pourra se substituer, si vous voulez, à la production d'ATP. Et donc, une fois qu'on va avoir instauré notre diète cétogène, ça va être important aussi d'inhiber la voie métabolique glutaminergique. Puis ça va demander l'utilisation de certains médicaments qui sont à l'étude clinique en ce moment. Donc, une autre phrase que je vous traduis du papier qui est bien importante. À notre connaissance, il n'y a pas de modèle de cancer qui conserve une capacité de réplication agressive illimitée en l'absence simultanée de glycolyse et de glutaminolyse. Donc, en supprimant ces deux voies métaboliques-là, on pense qu'on est capable de garder les tumeurs, si vous voulez, ou les cellules tumorales en arrêt métabolique pour mieux les frapper avec une thérapie efficace. Bon, maintenant, c'est quoi notre fameuse diète cétogène? Bien, ça demande un changement assez important au niveau de la diète. D'abord, on va manger des protéines maigres, comme du poisson, du poulet, de la dinde, des œufs, du fromage. On peut manger des légumes qui sont à faible teneur en glucides, comme évidemment tous les légumes verts, ça va. Mais on va éviter les aliments sucrés. Puis la première modification dans votre diète, elle est facile à faire. C'est d'éviter les sucres qui viennent du commerce. Hein? Tout ce qui est gâteau, biscuits, crème glacée, beignets, tout ce qui est malbouffe, on évite ça. Mais là où ça devient plus difficile en termes de tolérance pour les patients, c'est qu'il faut aussi éviter les féculents. Le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, le maïs. Et ça, je vous dirais, c'est la plus grande difficulté au niveau de la compliance. C'est extrêmement difficile. Pour ce qui est des boissons, ben on boit beaucoup d'eau, on peut boire du café, on peut boire du thé, on évite l'alcool parce qu'évidemment, il y a du sucre dans l'alcool. On évite toutes les boissons sucrées qui viennent du commerce. On planifie nos repas de sorte qu'on mange des protéines d'abord pour se sentir rassasié. Puis, on évite les aliments qui sont hautement transformés, tout ce qui contient des graisses trans. Et je vous dirais, pour assurer la compliance, on va travailler d'entrée de jeu avec un ou une diététicienne qui va nous assurer qu'il y a une cohérence nutritionnelle puis qu'il n'y a pas de carence. Donc, on introduit ça et là, ça demande un certain suivi. Puis le suivi métabolique demande qu'on calcule la glycémie et la présence de corps cétoniques. Et on cherche à avoir un ratio d'au moins 1:1, idéalement 2:1 en corps cétonique sur la glycémie. Donc, évidemment, si les gens font des hypoglycémies, on ne sera pas avancé. Et le point étant qu'il faut vraiment ajuster la diète sur une base individuelle, d'où l'importance d'avoir une nutritionniste qui fait partie de l'équipe qui suit chaque patient.
Mais ça, c'est, excusez-moi, Dr. Fortin, pour certains types de cancers, mais avec un traitement, donc est-ce qu'il n'y a pas un risque que les gens qui nous écoutent ou que les gens qui voient ça passer font « j'ai un cancer, je fais un régime cétocène, puis ça va m'aider? »
Oui, effectivement. En fait, c'est pour les cancers solides, donc des masses. Ce n'est pas du tout démontré dans les cancers sanguins. Puis l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que des fois, il y a certains patients qui veulent débuter une diète cétogène légère. Puis moi, je leur dis, bien, commencez juste par éliminer les sucres de votre alimentation. Puis déjà, ça va être un bon pas de fait avant de se dire qu'on se lance dans une vraie diète cétogène avec supervision d'une nutritionniste, bilan métabolique. On va commencer par ça. Puis par la suite, on pourra introduire la diète cétogène.
Parfait. Donc, on prend note de tout ça. Merci beaucoup, Dr. Fortin.
Plaisir.